Tous ces entrepreneurs noirs qui ont existé et qui ont possédé des terres, alors même qu'ils vivaient en pleine oppression, ils ont réussi à posséder des terres et à monter des entreprises. Et dès qu'ils y arrivaient, c'était une menace faite à l'histoire de l'Amérique. Les Noirs avaient trop de pouvoir et ils montraient aux Blancs qu'ils n'avaient pas besoin d'eux. Et ça, ça posait problème.
RFI. Grand reportage.
Du Texas au Kentucky, leurs ancêtres ont perdu leurs terres et de plus en plus de Noirs contestent la manière dont le gouvernement américain se les est accaparés. Aujourd'hui, ils réclament réparation. Avec une première dans l'histoire du pays, la Californie vient de rendre un terrain saisi il y a près d'un siècle à un couple d'Afro-Américains. Rendez-nous nos terres quand l'Amérique noire réclame réparation. C'est un grand reportage d'Anne Lamotte.
Nous sommes à Coloma, en Californie, à l'est de Sacramento, à l'intérieur des terres. Un petit village de collines, tranquille et historique. C'est dans l'eau de sa rivière que sont découvertes, en 1848, les premières pépites de la ruée vers l'or. Et c'est ici que ce matin-là, Jonathan Burgess donne rendez-vous, mégaphone à la main, à sa famille et à ses amis, des dizaines de personnes rassemblées autour de lui. Le but, faire le tour de ce qui a un jour, raconte Jonathan, appartenu à ses ancêtres, et notamment à Rufus Burgess, son arrière-arrière-grand-père, un esclave reconverti en chercheur d'or vers 1850 et qui achète une maison qui se trouvait alors, explique Jonathan, juste devant l'actuelle entrée du parc de Coloma, propriété de l'État.
J'ai des frissons quand je me trouve ici. Parce que quand on consulte la première carte de Coloma, qui date de 1857, on voit sa maison et c'est le seul propriétaire noir à l'époque. C'est là où est mon neveu en ce moment. Eh oui, Marlene. C'est la seule personne de couleur dont le nom apparaît sur cette carte en 1857. Et c'est triste. Mais aujourd'hui, ce parc ne fait mention ni de ses terres, ni de sa maison. Il fait comme s'il n'avait jamais existé. Et quand nous sommes ici, maintenant, je sais que nous sommes sur notre terre.
Les terres, car en plus de la maison, le pionnier acquiert, continue Jonathan, un atelier de forgeron et pas moins de 3 km carrés de verger.
À votre droite, à la place de la résidence touristique, c'était des vergers. De ce côté-là aussi. Ces vergers servaient à nourrir non seulement le comté de Sacramento, mais aussi celui d'Eldorado et de Placer. 3 comtés en tout. Ça fait beaucoup de terres. Ça fait beaucoup de vergers. Ça fait beaucoup de fruits. Et cette terre, elle est à qui ? C'est notre terre.
Une richesse que Rufus Burgess aurait léguée en partie à sa famille. Un de ses fils aurait ensuite acheté une petite église qui tombe en ruine aujourd'hui à Coloma et encore de nouvelles terres. C'est d'ailleurs l'un des rares documents officiels que Jonathan Burgess peut nous montrer. Un acte de propriété vieux de 140 ans pour 2 parcelles. J'ai peu de preuves, reconnaît l'entrepreneur et pompier de 48 ans. Mais je n'invente rien, insiste-t-il, en rage. Car après la Seconde Guerre, toujours selon lui, coupure de presse à l'appui, l'État de Californie fait valoir son droit d'expropriation, saisit les terres pour construire le parc, ce qu'il ne peut digérer. La visite se termine en colère.
Ce bel État de Californie dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a aucune excuse pour ne pas parler de ceux qui l'ont fondé. En fait, cet État n'existerait pas sans ces Afro-Américains, ces gens à la peau plus noire que noire, ces nègres, ni sans ces Indiens ou ces Chinois, tous ces gens qui l'ont construit. Je vais vous dire une chose. Il y a des hommes qui nous ont fait du tort. Et aujourd'hui, mes concitoyens, Californiens et Américains, peuvent m'accompagner pour réclamer ce qui nous appartient. C'est pas une question de blanc, de noir ou d'asiatique. C'est une question d'humanité. Et si notre gouverneur, le gouverneur de ce bel État, est l'homme qu'il dit être, il doit signer pour qu'on nous rende nos terres. Et si notre président, qui dit avoir une dette envers la communauté afro-américaine, parce que sans nous, il n'aurait jamais été élu, si notre président tient sa parole, les torts qu'on nous a faits seront révélés et diffusés, parce qu'il est temps que la Californie et que l'Amérique disent enfin cette satanée vérité.
Thank you.
Que les autorités disent la vérité, qu'elles nous rendent les terres qui peuvent être rendues et qu'elles nous donnent de l'argent. Voilà ce que réclame la famille Burgess. Mais que représente la perte de cette maison et de ces vergers sur 5 générations? Quels sont les bénéfices depuis la création du parc, dont la place de parking coûte 10 dollars par exemple? Pourquoi ne pas nous rembourser entre 1 et 2 milliards de dollars, interroge Jonathan presque sérieusement. Difficile de croire qu'un jour la Californie s'exécute, mais Cavan Ward y croit, dur comme fer.
Je me sens pleine d'énergie, je me sens optimiste, pleine d'espoir et fière. Et je sens que l'État va créer une loi pour que les Noirs de Californie récupèrent leurs terres ou soient remboursés si on ne peut pas leur rendre leurs terres. Donc je me sens bien, j'ai l'impression d'être du bon côté de l'histoire.
Cavan Ward, qui sait de quoi elle parle, car elle dirige Where is my land? Où est ma terre? Une organisation qui vient en aide aux familles qui, comme la famille Burgess, réclament réparation. Organisation qu'elle cofonde l'année dernière, après la fameuse victoire de la famille Bruce.
Personne ne pensait que la famille Bruce récupérerait sa terre parce que ça n'était jamais arrivé. Mais c'est arrivé, n'est-ce pas?
En effet, c'est arrivé. Le 30 septembre dernier, à Manhattan Beach, tout près de Los Angeles, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, signe en grande pompe le projet de loi qui autorise la restitution des terres volées aux Bruce il y a près d'un siècle. Le couple avait créé un complexe pour que les Noirs profitent de la plage en toute sécurité, mais en 1924, la ville saisit le précieux terrain, pousse les Bruce dehors contre une somme ridicule, 14 500 dollars, le parc, pelouse verte et vue sur l'océan, est aujourd'hui estimée à 75 millions de dollars.
Je suis fier, en tant que gouverneur de cet État, l'État le plus diversifié de la démocratie, la plus diversifiée du monde, je suis fier d'être ici. Pas seulement pour les descendants de la famille Bruce, mais pour toutes ces familles déchirées à cause de racistes partout dans ce pays. Alors signons ce projet de loi et rendons cette terre.
Une restitution qui est une première aux États-Unis et qui donne espoir non seulement à la famille Burgess, mais à des centaines d'autres. En moins d'un an, l'organisation de Cavan Ward a déjà été sollicitée par 200 familles à travers le pays. Et ça ne devrait pas s'arrêter là. Elle rappelle les milliers de fermiers afro-américains volés de leurs terres ces 100 dernières années, ou encore le massacre de Tulsa, en Oklahoma, en 1921. Un déchaînement de violence blanche contre un quartier noir et prospère. Des dizaines de blocs d'habitations et d'entreprises détruits, des centaines de morts, 10 000 sans-abri, toute une population coupée dans son élan. L'Amérique s'est construite, dénonce Cavan, en faisant en sorte que jamais les Noirs ne s'installent quelque part.
Regardez tous ces entrepreneurs noirs qui ont existé et qui ont possédé des terres, alors même qu'ils vivaient en pleine oppression. Ils ont réussi à posséder des terres et à monter des entreprises. Et dès qu'ils y arrivaient, c'était une menace faite à l'histoire de l'Amérique. Les Noirs avaient trop de pouvoir. Et ils montraient aux Blancs qu'ils n'avaient pas besoin d'eux. Et ça, ça posait problème. Pour beaucoup, la terre représente la liberté, la communauté. Elle représente la production de richesses de génération en génération. C'est la possibilité de mettre en place un système équitable qui vous permet de diriger de plus en plus d'entreprises, d'inscrire vos enfants à la faculté et d'acheter encore plus de terres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas que de l'argent, c'est une communauté. Pensez à Charles et Willa Bruce et à la communauté qu'ils développaient à Manhattan Beach. Ils allaient construire une école, une gare. Des Noirs du pays tout entier emménageaient là-bas, parce qu'ils y croyaient et ils appartenaient à cette communauté. Tout ça pour qu'on leur prenne ? Et pensez à tous ces Blancs qui possèdent des terres et des sociétés longtemps encore après la mort de leurs fondateurs. Ils les ont léguées à leurs enfants, qui les dirigent avant de les passer aux petits-enfants. Cette opportunité-là nous a été volée, partout dans ce pays.
Avec quelles conséquences aujourd'hui? Quelles conséquences sociales, économiques, politiques? Que serait devenu George Floyd, par exemple, si ses ancêtres n'avaient pas été volés? Questionne Kavan Ward. D'après elle, il serait resté plus facilement loin de la drogue, de la prison et de ce policier qui le tue il y a 2 ans à Minneapolis. Alors réparons, conclut-elle, dès maintenant. Mais alors, qui doit obtenir réparation en Californie? Combien et comment? C'est la question plus que complexe à laquelle doit répondre la Reparation Task Force, un groupe de 9 personnes nommées en septembre 2020 pour faire des propositions concrètes. Les premières doivent être publiées début juin. Là encore, l'État innove. C'est du jamais vu dans le pays. Jovan Scott Lewis fait partie de ce groupe. Il dirige le département de géographie à l'Université de Californie à Berkeley. Et pour lui, voilà ce que le processus de réparation implique.
So what we need are policies.
On a besoin de décisions politiques
and cash.
Et de cash.
En termes de décisions politiques, il faut à tout prix, explique Jovan, que le gouvernement s'engage à mettre fin, je le cite, à la tradition de délocalisation des communautés afro-américaines. Tradition qui perdure aujourd'hui, d'après lui. Exemple, prenez les quartiers ouest d'Oakland, en face de San Francisco, dit-il. Quartier majoritairement noir dès les années 30, puis petit à petit démantelé au cours des dernières décennies, hier par les expropriations injustes, aujourd'hui par le phénomène de gentrification.
Avec le développement de la Silicon Valley, on a vu un déplacement de certaines industries vers San Francisco intramuros, comme Twitter ou Airbnb par exemple, et elles se sont mises à recruter. Et les quartiers ouest d'Oakland sont juste de l'autre côté de la baie de San Francisco, seulement à une station de métro. Alors forcément, ces quartiers-là ont commencé à intéresser les promoteurs immobiliers et les gens qui travaillaient dans la tech et qui avaient de l'argent mais pas assez pour vivre dans San Francisco. Et la conséquence de cette envie-là, ça a été le déplacement de familles afro-américaines qui habitaient ces quartiers ouest d'Oakland depuis des générations. Il faut voir ce déplacement comme un exemple moderne de la façon dont les Noirs ont été obligés de bouger après l'émancipation, après l'abolition de l'esclavage. C'est un mécanisme qui a déjà plusieurs siècles et qui empêche les Afro-Américains de revendiquer un lieu de vie stable et qui les maintient au contraire dans une précarité géographique.
Maintenant, en termes de cash, on a du mal à imaginer la somme que cela pourrait représenter. On sait que 2 600 000 Afro-Américains vivent en Californie, mais seuls les descendants de Noirs, esclaves ou pas, arrivés aux États-Unis au 19e siècle, seront concernés par un éventuel remboursement. Quel est leur nombre? Il reste à définir, mais cela pourrait se chiffrer en centaines de milliards. Et alors, réagit le chercheur.
Yeah, the number is huge.
Le chiffre est énorme, mais c'est parce que le gouvernement américain paye avec des siècles de retard. Et donc, comme n'importe quelle personne qui aurait un crédit et qui ne rembourserait pas à temps, le taux d'intérêt monte. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on constate, c'est que le retard que prend le processus de réparation n'est rien d'autre qu'un exemple supplémentaire de la façon dont les États-Unis traitent les Afro-Américains depuis des siècles. Le message est clair, payez ce que vous devez. Donc, je n'ai pas peur que le chiffre monte très haut.
Et si l'État ne se décidait jamais? Amos Brown, 81 ans, ne veut même pas y penser. Il est militant des droits civiques, pasteur depuis 1976 de la 3e église baptiste de San Francisco. Et il fait partie, comme Jovan Scott Lewis, du groupe de réflexion mis en place par la Californie. Il en est même le vice-président. Et il renchérit. Il faut, d'après lui, que l'État et que l'Amérique blanche tout entière soient prêts à réparer. Sinon, il ne donne pas cher de la démocratie de son pays.
That depends on what white folks do.
Ça dépend de ce que les Blancs vont faire.
But if they don't demonstrate the will,
s'ils ne montrent pas la volonté de faire ce qui est simplement
humain, reasonable,
raisonnable
and morally right,
et moralement juste,
I predict that this nation will commit suicide.
Je vous fais le pari que cette nation finira par se suicider.
Check out Gibbon's.
Lisez le livre de Edward Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain.
Rome, fell.
Rome est tombée parce que les empereurs
because
menaient la grande vie.
The emperors were living high on the hall.
Ils vivaient dans l'opulence.
Living opulent lives, while the plebeians were marginalized.
Tandis que la plèbe, elle, était marginalisée.
Ostracized.
Les pauvres, ostracisés.
And Rome,
et Rome, d'après Gibbon, a été incapable de reconstruire ses infrastructures. Ces infrastructures, ça vous dit quelque chose? L'Amérique est incapable de reconstruire ses chemins de fer, ses terminaux d'aéroport, incapable de refaire ses routes, de se débarrasser de tous ces nids de poules. On prend le même chemin que Rome. Et si on ne nous verse pas un reliquat qui est raisonnable et juste, et dont le but est de nous rassembler, alors on va détruire notre pays. On va s'auto-détruire.
Au contraire, c'est rembourser une partie des Afro-Américains qui risque précisément de diviser encore un peu plus la société américaine, prévient Coleman Hughes. Il est écrivain, éditorialiste et l'un des rares Afro-Américains à s'exprimer publiquement contre le processus de réparation. Son conseil, regarder vers le futur plutôt que de ressasser le passé.
Imagine that you were someone who had been through a trauma.
Imaginez, vous avez vécu un traumatisme et vous décidez d'aller en parler à un psy. Vous lui expliquez que vous avez vécu ce traumatisme dans votre enfance, que vous craignez que ça vous affecte encore aujourd'hui et que vous voulez tourner la page. Et maintenant, imaginez que ce psy se tourne vers vous et vous dise « Voilà ce que vous allez faire, vous allez y penser sans cesse, pensez aux personnes qui vous ont fait du mal, ravivez toute cette colère que vous avez contre elles, ne leur pardonnez jamais, n'oubliez jamais, cherchez à tout prix qu'elles vous guérissent, attendez que la solution vienne du monde extérieur. » Imaginez qu'on vous donne ce conseil. Ce serait l'exact opposé de ce qu'il faut faire avec une personne traumatisée. En plus, on parle de quelque chose que ton grand-père a fait au mien, ou même que ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a fait au mien. Ça ne rend pas service aux Noirs de leur dire « Attendez que le gouvernement américain et par extension que les Blancs vous guérissent. Le traumatisme de l'esclavage est toujours là, mais vous n'avez aucun travail intérieur à faire. C'est le monde extérieur qui va venir nous sauver. Ce n'est pas la vérité et c'est un terrible conseil à donner. »
Donc d'après vous, la réparation ne va rien réparer?
Non.
Non.
Coleman Hughes, qui a eu l'occasion de témoigner devant le Congrès américain à Washington il y a 2 ans, car le Congrès s'interroge toujours sur la pertinence de créer une commission qui réfléchirait au processus de réparation au niveau national. Cela fait 33 ans qu'il s'interroge. Alors même si la Californie montre le chemin, la route de la réparation devrait encore être très longue aux États-Unis et certainement pavée d'embûches.
Rendez-nous notaire quand l'Amérique noire réclame réparation. Un grand reportage d'Anne Lamotte, réalisation Pauline Leduc.